bonne chance.
CIBL 105 Montréal.
CIBL, 40 años en el corazón de la cultura.
Et bonjour tout le monde, ici Alexandra Guélil, heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois et CIBL pour vous parler de droit autrement. En studio avec moi aujourd'hui, Marjolaine Condra-Morel qui nous parlera d'hypothèque légale. Bonjour Marjolaine.
Bonjour Alexandra.
Alors, hypothèque légale.
Ben oui, c'est le printemps, début de saison des rénovations. Si les travaux sont mal faits, est-ce que vous pouvez vous faire justice vous-même et ne pas payer?
On a hâte de t'écouter à ce sujet. On a aussi Marie-Neige Brisebois pour parler d'un livre bien particulier. Bonjour Marie-Neige.
Bonjour. Oui, je vais vous partager l'histoire de Daniel Jolivet, un homme qui a eu uniquement 11 jurés à son procès pour meurtre au lieu des 12 réglementaires.
On a hâte d'en savoir plus. Et notre invité du jour sera au téléphone. Il s'agit d'Yves Boisvert, chroniqueur à la presse. On parlera notamment de l'actualité américaine qui a des répercussions sur celle québécoise dans le sens où on en parle à la radio, à la télévision, dès qu'on se réveille le matin, de vulgarisation juridique, mais aussi de son parcours. Angle droit, c'est parti. Et on commence avec les actualités de la semaine avec Rebecca Chour. Bonjour Rebecca.
Bonjour Alex.
Alors le gouvernement fédéral songe à créer une charte canadienne des droits des locataires, mais le gouvernement du Québec s'y oppose. C'est ta première nouvelle.
Le gouvernement de François Legault soutient que la question des droits des locataires fait partie de ses champs de compétences. Pour sa part, le gouvernement de Justin Trudeau dit que c'est un pouvoir partagé entre le gouvernement fédéral et les provinces et que ses interventions respecteront les limites de son propre champ de compétences. Alors, la Charte canadienne des droits des locataires, Qu'Ottawa souhaite mettre en place exigerait que les propriétaires fournissent un historique des loyers d'un appartement afin que les locataires puissent négocier. Elle vise également à établir un bail standard à l'échelle nationale.
Rebecca, qu'est-ce que ça veut dire, les champs de compétences exactement?
Oui, les champs de compétences réfèrent à la division des pouvoirs dans la loi constitutionnelle. Cette loi a été adoptée lorsque l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick se sont unis pour créer le Canada en 1867. C'est donc en 1867 que les gouvernements se sont mis d'accord sur les domaines de compétences du fédéral et du provincial, voire le pouvoir de créer des lois portant sur ces domaines.
Et en matière donc de logement, tu me disais hors micro que plusieurs paliers du gouvernement veulent s'impliquer, c'est ça?
C'est sûr que en contexte de crise, c'est ça. Tout le monde veut faire sa part, mais dans l'attente du dépôt du budget fédéral le mardi 16 avril, il nous manque les tenants et aboutissants concrets de la proposition du gouvernement fédéral. Donc, on verra ce qui adviendra de cette Charte canadienne des droits des locataires, entre autres en ce qui concerne le respect des champs de compétences.
Seconde actualité, les franchisés de Tim Hortons déposent une poursuite civile au Québec contre le propriétaire de la marque. C'est le groupe TDL.
Oui, en gros, les franchisés ne sont pas satisfaits de la rentabilité de leur investissement. Ils allèguent que leur entente avec le groupe TDL leur impose trop de coûts et ne leur permet pas de faire assez de ventes. Ils demandent donc une compensation du groupe TDL pour couvrir les pertes des années 2021 à 2023. Le groupe TDL rejette les allégations des franchisés. On verra ce que le tribunal décide ou bien si les parties réussissent à s'entendre d'ici là. C'est un bon rappel que que ces chaînes de restaurants omniprésentes sont assez complexes sur le plan juridique. Dans notre exemple, nous avons Tim Hortons, une marque très répandue, mais qui la détient et à qui les bénéfices de toutes ces tasses de café. Mais en fait, il y a une entreprise, le groupe TDL, dans notre cas-ci, qui détient la marque Tim Hortons, mais il y a d'autres personnes ou entreprises qui détiennent chaque succursale. Ce sont les franchisés. Et ces franchisés doivent payer des frais et respecter plusieurs conditions pour faire partie de la marque.
La troisième actualité, Rebecca, l'été dernier à Montréal, il y avait une augmentation importante dans les signalements concernant le dépôt illégal de déchets et de nettoyage des rues. En prévision du beau temps qui arrive, quelles ressources sont à la disposition des personnes préoccupées par l'état des trottoirs et des rues, dis-moi?
Les signalements dont on parle ont été faits au toit 1-1, la porte d'entrée pour accéder aux services de la ville de Montréal, dont le nettoyage des trottoirs et des rues. L'équipe de toit 1-1 peut être jointe par téléphone 7 jours sur 7 et on peut aussi faire le signalement avec l'aide des formulaires en ligne ou de l'application Montréal Service aux citoyennes. C'est exactement le même concept dans les autres villes et régions du Québec. Il faut juste savoir comment contacter votre municipalité. Si le problème persiste ou vous y voyez un enjeu plus grand, vous pouvez contacter votre élu municipal pour lui en parler aussi. Évidemment, il est important de faire preuve de courtoisie en tout temps, même si on est frustré par ce qu'on vit. Il y a plusieurs options. Vous pouvez contacter votre élu directement ou poser une question lors d'une réunion de conseil. Et finalement, pour les personnes qui souhaitent s'impliquer davantage, il y a les initiatives citoyennes comme des corvées de propreté.
Merci beaucoup, Rebecca. À très bientôt pour d'autres nouvelles de la semaine. Et outre l'éclipse totale qui a fait les manchettes en début de semaine, l'actualité a continué de rouler, notamment aux États-Unis. Donald Trump a dit vouloir laisser la main libre aux différents États américains pour légiférer sur l'avortement. Il reste donc fidèle à la décision de la Cour suprême de 2022 qui a annulé la garantie fédérale du droit à l'avortement. Il renonce ainsi à une interdiction souhaitée à l'échelle nationale qui pourrait certainement lui coûter cher à la présidentielle. Avec nous en direct de Baltimore, Yves Boisvert, chroniqueur à la presse, pour couvrir notamment ces enjeux qui nous concernent. Bonjour, Monsieur Boisvert.
Bonjour.
Donc, cette sortie médiatique de Donald Trump n'est pas nouvelle. Hein. Qu'est-ce qu'elle traduit néanmoins sur le personnage comme de l'actualité internationale et juridique?
C'est qu'en fait, Donald Trump doit jouer un jeu entre l'appui qu'il a depuis le début des évangélistes ou des fondamentalistes chrétiens pour qui la bataille contre l'avortement est un enjeu fondamental, et le fait que pour la population américaine en général, c'est un enjeu qui devrait être un droit constitutionnel. Les sondages, ça dépend comment la question est posée, mais on voit qu'entre 70 et 90 %, en tout cas, on va dire les trois quarts des Américains en général, sont opposés au jugement qui a été rendu il y a bientôt 2 ans par la Cour suprême et qui annule le fameux jugement Roe contre Wade qui disait qu'il y avait qu'on ne pouvait pas enfreindre le droit à l'avortement aux États-Unis. Alors, donc, Trump veut garder la base. Sa base évangéliste, mais c'est tellement mobilisateur que même dans des États républicains, il y a eu des référendums et la question de l'avortement a été confirmée, ou si vous voulez, le droit à l'avortement a été confirmé. Parce que le jugement de la Cour suprême il y a 2 ans, ce qu'il disait, c'est que, en fait, c'est aux États de décider de cette question-là. Et donc, plusieurs États rouges ou républicains ont restreint ou annulé complètement le droit à l'avortement. Texas, etc. Donc, ça permettrait aux démocrates de faire sortir le vote.
Donc, c'est exactement la question hein, que j'allais vous poser. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre hein, pour la suite des choses avec cette sortie de l'ex-président américain?
Ben, c'est que là, justement, là, plusieurs évangélistes se sont dit très déçus parce que ce que Trump a dit, c'est, ben, écoutez, on va, ce sera aux États de décider. Donc, ceux qui disent que on devrait pas permettre aux États d'aller aussi loin que certains, parce que dans certains États, même en cas de viol ou d'inceste, l'avortement est interdit dans les nouvelles lois qui ont été adoptées. Alors, donc, ceux-là disent, ben, écoutez, là, Trump dit à ces gens-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et de l'autre côté, on dit, ben, il faudrait une interdiction nationale. Et ça, Trump, au fond, ce qu'il a dit, c'est qu'il fera pas ça ou il veut pas faire ça. Alors, comment ça va sortir, ça? Je peux pas vous le dire. Comment ça va? Quel impact ça va avoir?
On va vous suivre et on va lire ce que vous rapportez, notamment pour la presse. On revient chez nous, si vous permettez. Fin mars, l'ex-ministre fédéral de la Justice, David Lamptey, a choisi de se confier à vous sur l'affaire, notamment de l'ex-juge Jacques Delisle. On rappelle que l'ancien magistrat a été déclaré coupable de meurtre en 2012. Plusieurs appels ont échoué. Il a été condamné à perpétuité. Il a utilisé le recours extraordinaire de la révision judiciaire qui permet notamment de faire examiner un dossier qui pourrait constituer une erreur judiciaire. Donc tout ceci pour mettre en évidence l'importance du lien de confiance. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là? Pourquoi Lamptey a décidé de faire appel uniquement à M. Boisvert?
J'avoue que je ne lui ai pas demandé. Mais bon, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Et puis, j'imagine, oui, qu'il avait confiance que je rapporterais fidèlement ses propos. L'autre chose, il ne faut pas être naïf non plus, là, c'est pas entièrement personnel. Sachant qu'il donnait une entrevue à la presse, il savait que ça aurait un certain retentissement. Et ça dépend pas de moi, mais ça dépend de la force du média. Et donc, ça fait partie de sa décision, j'imagine, j'ose imaginer. Et bien sûr, moi, j'ai été au Palais de justice pendant plus de 10 ans dans les années 90. J'écris encore beaucoup là-dessus. Donc, dans le milieu, je suis connu et j'ose espérer que je suis connu comme étant quelqu'un qui écrit pas n'importe quoi non plus. Alors, mais ça, c'est le fruit aussi d'années de relations dans le milieu.
Votre crédibilité n'est plus à faire, en effet, dans le milieu. J'aimerais qu'on reparle du lien de confiance dans ce milieu juridique. Est-ce qu'un journaliste arrive facilement à le tisser pour mieux rapporter la nouvelle au public?
Ce n'est pas différent des autres milieux. Quand on commence, on n'est pas connu, qu'on couvre la santé, le monde du travail ou les affaires policières ou la justice, ben, les gens vont voir ce qu'on fait, quel genre de travail on fait, et vont développer une confiance ou une aversion. Hein. C'est évidemment pas tout le monde qui vous aime, mais donc vous allez être jugé sur votre travail, parce que nous, ce qu'on produit, c'est à la vue et au su de tous. Et après ça, ben, c'est au fil des jours, des mois, des années, qu'on se fait une réputation dans un milieu. Alors, c'est ce qui est différent dans le milieu de la justice, où c'est qu'il y a, il y a un langage spécialisé, il y a des us et coutumes. C'est vrai aussi dans d'autres milieux, mais disons que le milieu juridique aime cultiver une certaine un côté un peu étanche. Et le fait que moi, j'ai étudié en droit, ben, je suis pas impressionné par tout ça. Et je suis capable de parler ce langage-là, pas pour les lecteurs, mais disons de faire la traduction entre l'aspect technique de la justice et la vulgarisation.
Vous êtes quand même un bon traducteur. C'est la dernière question que je voulais vous poser. L'importance de la vulgarisation juridique. On peut lire vos chroniques pour connaître notre système, en tout cas pour mieux l'appréhender. Et pourquoi on doit faire plus d'efforts, que ce soit avec le chapeau éducalois, que ce soit avec le chapeau chroniqueur pour la presse? Pourquoi est-ce si important de vulgariser le droit aujourd'hui au grand public?
C'est fondamental parce que, et ça, ça fait partie de notre travail dans tous les domaines, hein, comme journaliste, pourquoi et comment les choses arrivent. Et donc, moi, comme chroniqueur, je vais faire des critiques, mais parfois, ça va surtout être des explications que je vais essayer de donner, parce que c'est pas facile à comprendre tout le temps. Les résultats des procès sont parfois décevants ou bizarres, mais il y a une raison qui l'explique, et donc, ça fait partie de mon travail que de vulgariser ça. Et si les gens ne comprennent pas les décisions, ben ils les respecteront pas. Et un état de droit tient pas par l'application par la police, mais par la crédibilité des décisions et la confiance que les gens en ont envers lui, ou l'absence de confiance s'il y a des erreurs qui sont commises. Donc, c'est très important d'expliquer pourquoi les choses arrivent dans la justice, l'impact d'une loi, l'impact d'une décision, la séparation des pouvoirs. Toutes ces choses-là, il faut constamment se les rappeler et se les réexpliquer collectivement.
Merci beaucoup, Monsieur Boisvert. Je rappelle que vous êtes chroniqueur à la presse. Vous étiez en direct de Baltimore. À très bientôt pour peut-être une prochaine entrevue.
Avec plaisir, je vous remercie.
Selon l'Association des consommateurs pour la qualité de la construction, on parle d'environ 1000 hypothèques légales de la construction qui sont publiées chaque année pour des travaux résidentiels, ceci entre janvier 2015 et novembre 2020. Ça représente un peu plus de 40% de toutes les hypothèques légales de la construction publiées. Marjolaine, une hypothèque légale de la construction, c'est quoi exactement?
Ah, la grande question à laquelle on va répondre aujourd'hui ensemble, Alexandra. Donc, l'hypothèque légale, la construction, c'est une sorte de garantie. C'est un gage de paiement pour le travail qui est effectué par les gens qui construisent, qui rénovent une maison. Et donc, ça protège un peu la dette que vous avez envers eux. Parce que si l'entrepreneur n'est pas payé, on s'expose à cette hypothèque légale de la construction.
Et comment ça fonctionne exactement, Marjolaine?
Bon, alors ça commence avec un entrepreneur qu'on engage chez soi pour des travaux. Et là, peut-être que les travaux sont bâclés pour mille et une raisons. On n'est pas satisfait, alors on tente de négocier avec notre entrepreneur pour prendre une entente, soit pour refaire les travaux ou payer moins, par exemple. Mm-hmm. L'entente n'est peut-être pas concluante, il n'y a peut-être pas de négociation possible. On choisit donc de ne pas payer. On se dit, je ne suis pas satisfait des travaux, je ne paie pas. Ça fonctionne comme ça. Résultat, peut-être, une hypothèque légale de la construction apparaît sur la maison. Alors, l'entrepreneur utilise la garantie dont je vous ai parlé en début de chronique et il inscrit donc sur votre maison une hypothèque légale de la construction pour garantir le paiement de ses travaux.
Marjolaine, une hypothèque, on parle bien de la même hypothèque que l'on peut signer, par exemple, auprès d'une institution financière?
Bien, en fait, c'est le même outil, ça a le même objectif, c'est-à-dire de garantir le remboursement d'une dette. Mais il y a une différence majeure dans le nom, hypothèque légale de la construction, c'est-à-dire qu'elle est créée par l'effet de la loi. Mm-hmm. Donc, normalement, pour une hypothèque avec une institution financière sur votre maison, vous allez devoir donner votre accord, il y aura un contrat et vous allez être d'accord d'avoir l'hypothèque sur votre maison. Pour les hypothèques légales, on n'a pas à donner notre accord. Hein? Si l'entrepreneur vous demandait votre accord pour hypothéquer votre maison parce que vous n'êtes pas satisfait des travaux, il y a des bonnes chances qu'il n'obtiendrait pas cet accord-là. Alors, l'entrepreneur n'a pas besoin de votre accord, mais il doit quand même respecter certaines conditions. Et donc, c'est ouvert pour des travaux de construction ou de rénovation. Alors, par exemple, travaux d'entretien de pelouse, ça n'entrerait pas dans cette catégorie-là. Mm-hmm. Donc, premièrement, travaux de construction ou de rénovation, ça doit être demandé par le propriétaire de l'immeuble.
D'accord.
Alors, ça ne peut pas être un locataire qui demande des travaux, c'est le propriétaire qui les demande. Et les travaux effectués doivent apporter une certaine valeur ajoutée à l'immeuble. On appelle ça la plus-value. Alors, il faut que les travaux faits donnent une plus-value, une valeur ajoutée à l'immeuble. on constate que dans ces critères-là, il n'y a pas le fait que les travaux soient bien faits, bien réalisés, bâclés ou non. Ce n'est pas un critère. Et donc, c'est pour cette raison que, malgré des travaux bâclés, il y a plusieurs jugements qui confirment la validité de l'hypothèque légale sur une maison, même s'il y a eu des malfaçons d'effectuer parmi les travaux. Parce que malgré ces malfaçons-là, il y aura une certaine plus-value, une certaine valeur ajoutée à l'immeuble par les travaux.
Et est-ce que l'hypothèque légale a une incidence sur l'hypothèque d'une institution financière? Est-ce qu'il y a des liens entre les deux?
Absolument. L'hypothèque légale, en fait, pourrait menacer le remboursement de la dette à la banque dans certaines situations, parce que la banque pourrait être perdante si, au final, on n'a pas assez d'argent pour payer tout le monde, payer notre entrepreneur, la créance à la banque également. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette hypothèque légale de la construction, elle a préséance sur les autres hypothèques. Elle vient en tout premier, alors elle surpasse la priorité de la banque et elle est en haut de la liste des dettes à payer. Et l'entrepreneur qui n'est pas payer peut même aller jusqu'à faire une demande à la cour et demander à un juge d'ordonner de vendre la maison, puis avec l'argent qu'on va obtenir par la vente, de se faire payer, puis d'ensuite payer la banque. Alors, on comprend que s'il n'y a pas assez d'argent pour payer tout le monde, la banque pourrait être perdante. Alors, c'est possible que la banque vous mette un petit peu de pression pour régler la situation, tenter de prendre entente avec l'entrepreneur ou même aller jusqu'à la cour pour contester cette hypothèque légale-là à la cour pour la faire radier ou trouver un terrain d'entente pour le paiement.
Mmh. J'imagine qu'il y a donc une autre solution que de se faire justice soi-même.
Ben, absolument. L'autre solution, on l'a dit en début, tenter de prendre une entente. Ça peut être difficile, mais je vous invite à tenter cette négociation-là. Vous pouvez être aidé par des professionnels pour tenter de négocier une entente avec votre entrepreneur. Il y a aussi l'option de payer sous protêt, c'est-à-dire que vous payez, mais en contestant officiellement le montant. Alors, sur le chèque, là, vous écrivez sous protêt, puis ensuite de ça, vous allez pouvoir aller à la cour pour réclamer ce montant de trop payé, donc ce que vous jugez avoir trop payé. Et de cette manière, il n'y aura pas d'hypothèque légale sur votre maison, puisque l'entrepreneur aura tout de même été payé. Et si le montant dû est d'une valeur moindre de 15 000 $, vous aurez accès à la cour des petites créances pour demander ce remboursement-là de trop payé, ce qui n'est pas le cas avec l'hypothèque légale. On ne peut pas contester l'hypothèque légale à la cour des petites créances, même si le montant des travaux non payés est plus bas que 15 000 $.
Les rappels finaux pour ne pas perdre la mémoire sur cet élément important.
Alors, les hypothèques légales de la construction, c'est une garantie pour payer les dettes de construction ou de rénovation. Alors, ça prend des travaux de construction ou de rénovation demandés par le propriétaire de l'immeuble qui apporte une certaine valeur ajoutée. Et se faire justice soi-même en ne payant pas notre entrepreneur, ça peut se retourner contre nous. Alors, c'est un pensez-y bien.
Merci beaucoup, Marjolaine, pour information. Hein, les auditeurs, auditrices peuvent lire ton texte dans le magazine L'Actualité, puisque c'était aussi le sujet de ton dernier article.
Tout à fait, merci.
À très bientôt. À présent, littérature, avec le 12e juré qui est un livre écrit par Pierre Bellan et Daniel Jolivet. Dis-moi Marie-Neige, quelle est l'histoire de ce livre?
En fait, il s'agit d'une vraie histoire, soit l'histoire personnelle de Daniel Jolivet, un criminel qui, en novembre 1992, s'est vu arrêté et accusé d'un quadruple meurtre. Donc, il a été déclaré coupable de meurtre au premier degré avec préméditation pour deux des victimes et coupable de meurtre au deuxième degré pour les deux autres victimes. Donc, il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 25 ans, le 1er avril 1994. Donc, c'est un livre écrit par Pierre Bellan et Daniel Jolivet, puis selon eux, il s'agit de la pire erreur judiciaire au Canada. En fait, on dit que Daniel Jolivet serait reconnu coupable d'un crime qu'il n'a pas commis. Au niveau du livre, il se présente en trois parties. Donc, on a la première semaine de liberté, la dernière semaine de liberté de Daniel Jolivet, soit les quelques jours avant le quadruple meurtre. La deuxième partie, on voit vraiment l'autopsie de son procès. Puis enfin, la troisième partie nous raconte les démarches entreprises par Daniel Jolivet depuis sa condamnation pour prouver son innocence. Puis, au courant du livre, on découvre la version des faits de l'accusé sur ce qui se serait réellement passé, selon lui, dans la nuit du 10 novembre 1992.
Alors, dans toute histoire, chacun a sa version des faits. Quelle est la version des faits des auteurs, dis-moi?
Oui, donc Daniel Jolivet est un criminel avec un casier judiciaire qui se rendait souvent au Mexique par affaires. Donc, comme le titre le mentionne, il manquait nécessairement un jury à son procès, mais ce n'est pas l'élément le plus déterminant sur lequel les auteurs vont se concentrer pour prouver l'innocence de Daniel Jolivet. Donc, le juge a décidé d'exclure une jury du procès pour cause de liens amicaux entre une jury et les deux premiers policiers qui sont arrivés sur les lieux du quadruple meurtre. Mais c'est notamment sur le témoignage incriminant d'un délateur de la couronne, Claude Riendeau, un ex-policier qui a été reconnu coupable d'importation et de trafic de cocaïne en 2015, que Daniel Jolivet clame son innocence. En fait, lors de son interrogatoire, Claude Riendeau a rapporté des supposés aveux de Daniel Jolivet faits au lendemain du meurtre lorsqu'il serait allé déjeuner avec lui et qu'il lui aurait avoué être l'auteur de ce quadruple meurtre. Puis, enfin, il y a également plusieurs documents importants qui n'ont pas été divulgués à la défense durant l'ensemble du procès, ce qui a pu compromettre certains éléments de preuve.
Qu'est-ce qu'une erreur judiciaire?
Une erreur judiciaire, c'est lorsqu'une personne innocente est reconnue coupable d'un crime qu'elle n'a pas commis. On peut aussi appeler ça des condamnations injustifiées. Par contre, c'est impossible de savoir combien il y a d'erreurs judiciaires au Canada parce que c'est très difficile pour les personnes qui sont accusées à tort d'établir leur innocence. Il existe un recours extraordinaire, comme tu as pu le mentionner un peu plus tôt dans l'émission, qui est l'article 696.1 du Code criminel. Donc, on peut faire une demande en révision au ministre de la Justice fédérale au motif d'erreur judiciaire. Puis, cette demande-là, c'est en fait le groupe de la révision des condamnations criminelles, le GRCC, qui est formé au ministère, qui va analyser le dossier des gens condamnés. Puis, c'est nécessaire d'avoir des nouvelles preuves là, pour faire cette requête-là. Puis, c'est le GRCC à ce moment-là qui va le décider s'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'il y a une erreur judiciaire qui s'est produite, qui va remettre un rapport final au ministre. Puis, c'est au ministre à décider s'il peut ordonner un nouveau procès ou envoyer l'affaire devant le cour d'appel.
Est-ce que Daniel Jolivet est toujours détenu, dis-moi?
Oui, actuellement. Donc, Daniel Jolivet est détenu depuis son arrestation le 14 novembre 1992. Puis, il a achevé, en fait, sa 31e année de détention. Puis actuellement, il est en attente d'une décision du GRCC à la suite de dépôt de nouvelles preuves en mai 2021.
En terminant, est-ce que c'est un livre que tu as aimé et que tu recommandes aux auditrices auditeurs?
J'ai trouvé que c'est un livre très intéressant. En fait, ça constitue vraiment l'enquête, mais du côté de la défense. Donc, c'est intéressant d'avoir le point de vue personnel de l'accusé tout au long du procès parce que le livre est rédigé à la première personne par Daniel Jolivet. Donc, on revisite vraiment les derniers jours précédant son arrestation, son procès, puis comment chaque geste qu'il a pu faire peut être interprété d'une manière de raconter l'histoire d'une certaine façon afin d'obtenir un certain verdict.
Merci beaucoup, Marie-Neige. On rappelle que le 12e jury a été publié aux éditions Somme Toute et que le livre est disponible chez votre libraire ou encore dans une bibliothèque près de chez vous. J'espère à très bientôt pour une prochaine chronique. Alors, vous l'entendez, c'est déjà la fin d'Angle Droit. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous angledroit@commercialeducalois.qc.ca. Merci à Geoffrey Pro à la mise en onde ainsi qu'à Jason Paré à la réalisation. Ici Alexandra Guélil, bonne journée à l'antenne de CIBL 101.5.
Cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Me semble que tu serais dû pour changer ton climatiseur pour une thermopompe qui consomme moins d'électricité.
Ah, moi, changer pour changer.
Hey, c'est tout un changement. Surtout avec le nouveau programme Logiver d'Hydro-Québec.
Ça change quoi?
T'as droit à de l'aide financière pour des mesures d'efficacité énergétique. Moi, j'ai obtenu 6 700 pour ma thermopompe efficace. Ça te change un budget.
Ah. Puis ça te change une ambiance aussi.
Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logiver d'Hydro-Québec.
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zitto et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
Le père du printemps, c'est moi. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Sur fond de hip-hop, chaque mardi de 19h à 20h sur CIBL 101.5.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.